Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Bienvenue pour cette conférence du professeur Yves Clos. Yves, c'est un très grand plaisir de te recevoir à nouveau à Bordeaux, ici au cœur de la ville, à la librairie Mola. Yves Clos est donc, comme l'a dit Michael, professeur émérite au Conservatoire national des arts et métiers, psychologue du travail, titulaire de la chaire de psychologie du travail. Tu as été directeur du centre de recherche sur le travail et le développement. Et tu diriges aussi une collection avec Dominique Lullier chez ERES sur la clinique du travail. Yves Clos, tu es l'auteur de nombreux ouvrages, La fonction psychologique du travail, Travail et pouvoir d'agir, Le travail à cœur pour en finir avec les risques psychosociaux et Agir en clinique du travail. Aujourd'hui, à travers tes travaux et ta conférence, nous allons pouvoir parler et débattre autour du sujet qualité du travail entre santé et performance. Un sujet ô combien important aujourd'hui. On sent bien que nous sommes à une période qui est un tournant au niveau social, au niveau du travail. Tout est étroitement lié. Tu as environ 45 minutes, une heure de conférence et ensuite nous aurons le plaisir d'accueillir vos questions pendant au moins 30 minutes.
Bien, merci. Vous m'entendez là ? Ouais. On a la chance d'avoir un son de qualité. Hein ? Pas toujours le cas dans les conférences. En tout cas, c'est bien. Ça me donne l'occasion de remercier pour... son accueil, la librairie Mola, d'abord, hein, qui nous prête cette salle tout à fait particulière et à mon goût fort sympathique, et en particulier pour le son qui est de grande qualité en raison du matériel qui est déployé, hein, ce qui montre que on peut à la fois marier le modernisme et la tradition. Voilà. Donc c'est la librairie Mola que je remercie d'abord, mais évidemment aussi ceux qui, du côté de l'ARAC, organisent cette jonction finalement entre l'accueil de la librairie et l'accueil de la semaine sur la qualité de vie au travail. Hein, donc je suis très content d'être là. Évidemment, ne prenez pas ça pour une coquetterie, c'est vrai. Enfin, surtout, je suis très content, après que j'aurai fait ce qu'on m'a demandé, d'échanger avec vous. Je pense qu'on aura le temps. Et je vous prie de croire que c'est ce qui m'intéresse le plus. Je ne dis pas que je ne m'intéresse pas à ce que je vais vous dire, mais la discussion m'intéresse beaucoup, surtout qu'on est sur des questions qui sont très compliquées et que bien malin celui ou celle qui pourrait dire qu'il a enfin attrapé la question définitivement, ce qui n'est pas mon cas. Mais par contre, je vous présente un point de vue que j'essaie de présenter de manière la plus claire possible pour que vous le discutiez. Pas simplement pour que vous posiez des questions, pour que vous le discutiez. C'est ça qui m'intéresse. Hein. Et conforme à l'idée que je me fais du travail qui est le mien. Voilà. Merci aussi à Loïc pour les quelques mots qu'il a dit. Et ça me fait aussi plaisir de partager cette... tribune avec toi. J'imagine qu'on aura aussi l'occasion de t'entendre, l'occasion de la discussion. Hein. Et bien que juriste et psychologue du travail, dans la conjoncture où nous sommes, ait des occasions de se rencontrer. Parce qu'il y a un lien qui s'est fait socialement entre les deux, indépendamment de notre volonté, mais de toute façon qui s'impose à nous tous. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que je suis venu vous dire ? De manière un peu carrée, je vais le dire tout de suite. Je suis venu dire qu'au fond, pour moi, il n'y a pas de qualité de vie au travail, puisque c'est la thématique de la semaine, qui ne soit pas enracinée dans la qualité du travail tout court. Pourquoi ? Parce que, si je veux le dire d'une formule qui, elle aussi, a l'avantage d'être verticale et donc discutable, il n'y a pas de bien-être sans bien faire. Ça, c'est le fil conducteur de tous les travaux que j'ai pu conduire et des expériences pratiques qui sont les miennes, qui sont d'ailleurs pas simplement les miennes, mais qui sont celles de toute une équipe que je n'oublie jamais de saluer à ces occasions. Beaucoup de travail collectif. Et donc, ce que je vais vous dire, c'est le résultat d'un travail collectif, si, même si, bien sûr, j'ai pris ma part dans l'affaire, quoi. Hein. Donc, pas de bien-être sans bien faire. C'est au fond le fil conducteur de ce que je veux dire, sachant que si j'ai appelé l'avant-dernier ouvrage que j'ai écrit « Le travail à cœur », c'est que précisément je considère que c'est comme ça, quand on peut prendre son travail à cœur, qu'on a le plus de chances d'avoir sa santé protégée. La protection de la santé a donc à voir avec la possibilité de se reconnaître dans ce qu'on fait, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que d'être reconnu par autrui. Se reconnaître dans ce qu'on fait, faire quelque chose qui est défendable à ses propres yeux, ça me paraît absolument central en matière de santé au travail. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut prendre le problème. Et après, du point de vue pratique, voir comment on peut le prendre, pas simplement identifier l'objectif. Et donc mettre la qualité du travail au cœur de l'affaire. Sachant que vous avez sans doute remarqué, comme moi, qu'en matière de santé au travail, le vocabulaire est flottant. Si, comme j'ai commencé à avoir un peu d'âge, j'ai connu les temps héroïques et avant-gardistes du stress au travail. Alors ensuite, je suis passé, comme vous tous, hein, par la thématique de la souffrance au travail. Ensuite, j'ai connu les risques psychosociaux. Au passage, j'ai croisé quelque chose qui est encore très important, d'après ce que j'ai compris, puisque un colloque vient d'avoir lieu, le harcèlement au travail. Voilà. Maintenant, la thématique qui domine, c'est la qualité du travail. Je passe sur le burn-out, le bore-out, et ainsi de suite. Comme vous voyez, il y a ce qu'on pourrait appeler un glissement lexical permanent du vocabulaire. La manière de dire la chose, j'allais dire, ne tient pas en place. Ça, c'est très intéressant en soi. Ça m'a amené beaucoup à réfléchir à cette affaire-là. Il y a comme une sorte de démonétisation du vocabulaire qui désigne les problèmes de santé au travail. Et d'ailleurs, tout se cumule, hein, et même parfois tout se confond. On pourrait même parler d'obsolescence programmée. C'est-à-dire, je suis en train de vous annoncer que sans doute, après la qualité de vie au travail, il y aura autre chose. Alors, du coup, le psychologue du travail que je suis, évidemment, et qui est psychologue tout court, d'ailleurs, hein, au passage, est amené à se demander si on n'a pas affaire à un symptôme, tout simplement, le vocabulaire glissant. Comme si les mots ne tenaient pas sur les choses. Ce vocabulaire glissant est en lui-même un indicateur important de la situation que nous connaissons depuis plusieurs années. Cette situation, à partir du moment où on la regarde comme un symptôme, on est amené, si on fait un peu de psychologie, ce qui est mon cas, à voir derrière le symptôme quel est le conflit. Au fond, de quoi le symptôme nous parle ? Et bon, je fais une hypothèse, hein, que j'ai mise en discussion. Je me suis efforcé de nourrir cette hypothèse d'un certain nombre d'éléments, de faits et de concepts. Je fais l'hypothèse qu'au fond, derrière tout ça, il y a comme une angoisse sociale, une angoisse dans la société. Et en général, quand il y a une angoisse, il y a un déni. Je fais un peu de psychologie, je m'excuse, hein, mais bon, ça peut être utile. Et donc l'hypothèse que je formule, que je défends, c'est qu'il y a bel et bien un déni. Il y a un déni d'un conflit sur la qualité du travail. On pourrait même dire qu'au fond, ce qui fait symptôme régulièrement indique que le déni se répète de ce conflit sur la qualité du travail. Et je vais être encore un peu plus précis, un déni du conflit sur les critères de la qualité du travail. Pas la qualité du travail en général, les critères de la qualité du travail sont dans la société différents les uns des autres. S'affrontent des points de vue différents sur la qualité du travail. Se mesurent des angles d'attaque sur cette question-là et des pratiques sociales qui concernent la qualité du travail. Voilà. Autrement dit, c'est quoi le travail bien fait ? Franchement, c'est passible de définitions multiples et de définition opposée, voire de définition conflictuelle. Et dans ma bouche, le conflit n'est pas mortel, n'est pas un drame. En général, c'est même quand on a du mal à instituer les conflits qu'ils deviennent ravageurs. Donc, vous voyez, je fais l'hypothèse que si le vocabulaire glisse, si on n'arrive pas à stabiliser le vocabulaire, et qu'on a un vrai problème avec, dans la société telle qu'elle existe, c'est-à-dire pour ce qui nous concerne dans les organisations du travail, qu'on a un vrai problème sur la possibilité d'instituer, et je parle d'institution au sens fort du terme, y compris juridiquement, d'instituer les conflits sur les critères de qualité du travail. Et qu'au fond, tant que cette difficulté persiste, on pourrait même dire que tant que le conflit de critères sur la qualité du travail n'aura pas droit de cité dans les organisations, belle expression, droit de cité. Droit de cité dans les organisations, on peut faire l'hypothèse que le vocabulaire va continuer à glisser. C'est bien pourquoi j'aime bien, chaque fois que le vocabulaire est momentanément stabilisé, venir le questionner et annoncer qu'il va y avoir du nouveau dans le vocabulaire. Donc pour le moment, on est sur qualité de vie au travail. Et c'est pas en plein milieu d'une semaine sur la qualité de vie au travail que je vais évidemment, comment on dirait, cracher dans la soupe. Hein. Je pense que ces glissements de vocabulaire sont très importants parce qu'ils signalent un problème persistant. Et donc, il faut les accueillir. Chaque fois qu'on formule les choses d'une certaine manière, il faut les accueillir sans aucune arrogance, en voyant bien que chaque fois, c'est un moyen d'essayer d'attraper le problème. Voilà. Alors, pourquoi, comment je peux justifier, je pourrais justifier de beaucoup de manières l'insistance qui est la mienne sur le travail bien fait. Je pourrais le justifier de manière clinique. Je ne vais pas faire ça. Bon, je pourrais le faire dans la discussion. Suffisamment de terrain qui montre à quel point c'est l'un des problèmes majeurs. Et on peut travailler, non pas à le résoudre, mais en tout cas bien le poser, et parfois même à le résoudre, d'ailleurs. Je pourrais, dans la discussion, je le ferai si nécessaire, prendre la chose comme ça, à partir de mon propre travail et du travail de mon équipe dans des interventions dans les organisations. Parce que je suis d'abord, il faut que les choses soient le plus claires possible, un praticien. Autrement, on ne peut pas faire de la psychologie, à mon avis. Mais je vais le prendre autrement. Je vais le prendre d'abord par les statistiques, vous voyez, ce qui nous met loin de la clinique, mais qui est tout à fait significatif. Puis après, par deux ou trois exemples grand public, j'allais dire, que tout le monde a en tête et qui nous permettront de voir, qui me permettront de poser le problème et à vous de le discuter ensuite. Alors, les statistiques sont les suivantes. La DARES est un grand organisme, c'est la tradition française de statistiques sur les conditions de travail. Et on doit à mes collègues, que je manque jamais l'occasion de féliciter, aussi bien Michel Golac que Serge Volkoff, d'avoir développé cette tradition française, de l'avoir enrichie et de l'avoir portée au plus haut niveau. Et maintenant, la DARES est dirigée par Thomas Coutreau. Et je dois vous confier que j'avais avec la DARES des discussions régulières, parce qu'on a des discussions régulières entre statisticiens et psychologues, ce n'est pas les mêmes métiers. Et la DARES posait traditionnellement la question, lorsqu'elle voulait soulever ces problèmes de santé psychique, santé mentale au travail, vous connaissez peut-être ça, en termes de faire des choses contraires à sa conscience. C'était une manière de poser le problème autour duquel j'essaie de tourner. Faire des choses contraires à sa conscience était considéré comme un facteur de risque extrêmement important dans les enquêtes de la DARES, qui sont des enquêtes déclaratives, bien sûr. Mais j'avais toujours noté que cette question produisait des réponses, à mon avis, en deçà du problème. Et c'était une discussion qu'on avait souvent avec Thomas Coutreau. Je trahis personne, c'est des choses que vous pourrez vérifier auprès de lui si vous le rencontrez un jour. Et j'ai toujours dit à Thomas Coutreau, votre question, elle a un défaut, c'est qu'elle a un côté couche moyenne supérieure. Je fais des choses contraires à ma conscience. Je pense que vous devriez poser une question plus simple. Est-ce que je peux ou je ne peux pas faire du bon boulot? Alors évidemment, c'est compliqué de faire des questionnaires avec cette question, mais au moins le travail bien fait. Et après de nombreuses années, J'ai été très heureux un jour de voir introduit dans les enquêtes de la DARES cette question-là. Et je vous donne le résultat, qui a étonné, y compris les collègues de la DARES, hein, c'est pas un scoop. Le résultat sont les suivants. Ils considèrent que statistiquement, c'est une vraie, comment dirais-je, une vraie surprise. Hein. Alors que la question était là, est-ce que vous ressentez toujours ou souvent la fierté du travail bien fait ? Je ne vais pas insister là-dessus, mais évidemment, dans le travail bien fait, il y a la question de la fierté. Hein, pouvoir être fier de ce qu'on fait. Pas toujours. J'ai coutume de dire, attention, parce que si on cherche à être toujours fier, c'est très fatigant. Mais au moins de temps en temps, quoi. Hein, voilà. Pas obligé d'être un héros de la fierté au travail et d'être toujours à l'aise avec ce qu'on fait. Ça, c'est des histoires qu'on se raconte. Mais c'est pas comme ça, la vraie vie. Mais au moins de temps en temps. Donc la question de la DARES a été posée comme ça. On a les résultats. Les résultats, c'est que 35% des salariés de l'industrie, 35% précisément, 35% des salariés de l'industrie et 37% des salariés de la fonction publique d'État ou hospitalière déclarent ne jamais ressentir la fierté du travail bien fait. C'est, du point de vue statistique, énorme. C'est ce que disent les statisticiens, énorme, parce qu'évidemment, ce sont des chiffres agrégés. Ça signifie que derrière, il y a des situations locales où ces données-là sont multipliées par 3, quoi. Et il y a même des situations, j'en connais, dans lesquelles vous pourriez dire il y a 100% du personnel, par exemple dans certains EHPAD, dans les hôpitaux, mais aussi dans l'industrie automobile, que je connais bien, pour vous dire à quel point c'est répandu. Donc on est sur un problème majeur, posé comme ça. Vous voyez, ce n'est pas simplement faire quelque chose qui ne correspond pas à sa conscience. On peut faire du bon boulot ou non. On se reconnaît dans ce qu'on fait ou non. Et pour moi, c'est même beaucoup plus simple que ça. C'est est-ce que je peux parler à table le soir à mon conjoint et à mes enfants du travail que j'ai fait ? Le silence dans les familles sur cette question-là est un critère de dégradation de la santé au travail. Alors évidemment, difficile de prendre ça en compte au plan statistique, mais c'est très important, y compris pour la transmission entre les générations. Donc voilà, ça c'est la première donnée. La deuxième donnée de la DARES, qui est à mon avis presque aussi importante et qui nous met au cœur du sujet, puisque mon sujet c'est la performance et la santé. La deuxième donnée que je voudrais mettre sur la table, c'est la suivante. Ça, c'est beaucoup plus récent. C'est 2017. À l'automne 2017, la DARES a montré que, enfin, a fourni les chiffres qui consistent à faire la démonstration que la santé mentale des salariés s'améliore quand ils sont non pas seulement consultés sur des transformations de l'organisation, mais partie prenante des décisions qui engagent leur travail. Je cite là l'adresse. Partie prenante des décisions qui engagent leur travail. Et il y a une troisième donnée qui m'intéresse encore plus, parce que les psychologues sont particulièrement concernés par ce problème. Il semble qu'il vaille mieux être informé, mais pas consulté, si on n'est pas ensuite entendu. Alors ça signifie que être consulté sans pouvoir influer sur les décisions est pire que tout. Ça, pour les psychologues du travail, j'allais dire pour les intervenants en milieu de travail qui aujourd'hui se piquent tous, et j'en fais partie, de fabriquer des espaces de discussion dans lesquels, comme on dit souvent, on libère la parole. Simplement, ça signifie que, attention, parce qu'il ne suffit pas de libérer la parole, une parole libérée qui ne se traduit pas par des transformations effectives des organisations est une parole dangereuse. Qui fabrique quoi ? Essentiellement de la défiance à l'égard des organisations. Est-ce que les gens ont horreur, vous et moi d'ailleurs, c'est notre cas aussi, j'imagine, qu'on ne fasse rien de ce qu'ils disent ? Et au bout d'un moment, quand on ne fait rien de ce qu'on a dit, ce qui s'installe, encore une fois, dans les organisations, c'est le silence, celui qu'on garde sur l'estomac et qu'on transporte, y compris le soir, à table. Donc, rien de pire que la parole inutile. Donc vous voyez la difficulté de la chose, quoi. Rien de pire que ça. Parce que la parole inutile, ça se transforme en ressentiment. Ou, si on veut le dire de manière, j'allais dire, plus ordinaire, on la garde sur l'estomac. Et ça fabrique, on en fait une maladie. Belle expression populaire. J'aime beaucoup cette expression populaire. Tu ne vas pas en faire une maladie ? Bah si. Je vais en faire une maladie. Vous voyez, le « en faire une maladie », c'est de quoi ? Alors, la parole inutile, je pense que c'est un des fléaux des temps modernes. Surtout lorsqu'on rencontre dans les organisations, et on rencontre de plus en plus, des bonnes intentions, y compris de dirigeants, qui considèrent qu'il faut surtout permettre aux gens de parler et qui cherchent, au fond, à ce qu'ils s'expriment. L'expression, y compris le droit d'expression. Là, on tombe sur des problèmes juridiques extrêmement intéressants, puisque le droit d'expression, c'est la loi de 82. Hein, y compris le droit d'expression, sans la possibilité de décider. Ben, on est devant un problème psychologique majeur et un problème social majeur. Quoi. Alors, voyez bien que là, je suis au cœur des problèmes de performance. Parce que décider de quoi ? Ben, pas simplement décider de son geste professionnel, encore que ça soit capital, hein, mais décider de la qualité du travail, de la qualité du geste, bien sûr, de la qualité du rapport de travail collectif, très important, de la qualité des rapports et des compétences et de l'expertise dans le rapport entre les hiérarchies et les subordonnés, mais aussi de la qualité des produits. Dans qualité du travail, j'insiste, je mets aussi qualité des produits. Et vous allez voir à quel point c'est une affaire importante, puisque maintenant, je vais prendre quelques exemples qui vont vous rappeler des choses que vous avez déjà entendues, parce que maintenant, toutes les semaines, il est question de ça, y compris dans la grande presse, ce qui donne une idée forte de ce qu'il en est en réalité. Parce que entre la grande presse et le réel, il y a un petit écart. Donc, quand ça arrive dans la grande presse, ça veut dire que ça fait déjà du bruit dans le local, si je peux dire. Hein. Alors, je prends trois exemples. L'un que vous avez tous en tête, Volkswagen. Bon, on appelle ça le Dieselgate, mais c'est beaucoup plus circonscrit que ça, puisque maintenant, on est passé de Volkswagen à Audi. Vous voyez, ces voitures qu'on peut admirer. Moi, personnellement, j'aime bien les Audi. Je vous le dis, au passage, comme ça, c'est pas pour le plaisir. Hein. Mais Audi vient d'être épinglé sur cette affaire-là. Voilà. Soupçonné d'avoir été la cellule Audi, la cellule pour Volkswagen, la cellule de développement des diverses manipulations illégales des logiciels, des moteurs diesel pour contourner la législation sur les émissions d'oxyde d'azote. 11 millions de véhicules Volkswagen dans le monde, et la réputation d'un groupe entaché, il faut penser aux salariés de Volkswagen, qui est un des fleurons de l'industrie allemande. Et on se trouve dans une situation où la réputation d'une entreprise comme ça, Audi, la même chose, je ne parle pas des groupes automobiles français, je préfère me taire, où la réputation des groupes comme ça est entachée, et où la performance de ces groupes est affectée. Y compris la performance financière. Alors, bien sûr, Volkswagen a les moyens, j'allais dire, à tous les sens du terme, de compenser, ce qui est le cas, hein, ce qui donne une idée. Avec les dizaines de milliards d'amendes payées par Volkswagen, ils sont encore dans le vert. Mais n'empêche, c'est des chutes de performances industrielles et financières qui sont colossales. On sait, d'ailleurs, maintenant, on a à peu près le fin mot du dossier, on sait que la direction de Volkswagen n'a pas triché. Et c'est d'ailleurs ça qui est intéressant. La direction de Volkswagen n'a pas triché. Elle a simplement dit, il faut conquérir le marché américain, devenir le principal groupe sur le marché. Et pour ça, il faut qu'au mois de février, nous soyons capables d'avoir livré le nouveau moteur diesel indispensable. Et les ingénieurs se sont débrouillés pour tenir les délais. Vous voyez les critères, le marché, les délais, et faire un moteur innovant c'est-à-dire développer un moteur de qualité, un produit de qualité. Voilà. Eh bien, les ingénieurs, dans cette situation de conflit de critères, tenir les délais, sauver l'entreprise, ou en tout cas lui permettre de prendre le marché, et en même temps faire leur beau métier, qui est un métier de concepteur de logiciels, dans cette situation de dilemme professionnel, on va le dire comme ça, eh bien, d'une certaine manière, ils ont été créatifs. Et ils ont fabriqué un logiciel qui permet de passer les tests et qui ensuite livre le véhicule dans des conditions dégradées dans la circulation routière. Une grande créativité des ingénieurs. Et donc, c'est très important de savoir que la direction de l'entreprise n'a pas triché. Parce que ça signifie quoi ? Ça signifie qu'un petit maillon intermédiaire, là, c'est qu'on a une organisation du travail qui, d'une certaine manière, ne permet pas de dire non, ne permet pas d'exister dans le conflit de critères, ne permet pas d'objecter, ne permet tout simplement pas de dire ce que vous nous demandez dans les délais où vous nous le demandez, c'est pas possible. Et nous, on vous le dit parce que c'est notre job. Et comme c'est nous qui faisons le job, alors il faut nous entendre. Eh bien, ça, c'est pas possible. Donc, on a un problème d'organisation du travail. C'est ça, l'organisation du travail, hein, fondamentalement. Donc là, on a parole inutile, dialogue impossible, dialogue empêché. Vous savez bien à quel point je suis attaché à l'activité empêchée. Et vous voyez que quand on est dans une activité empêchée, c'est le cas de ces ingénieurs, eh bien, on se débrouille pour contourner l'obstacle, au risque de faire quelque chose qui entache durablement la réputation d'une entreprise. Voilà, ça c'est. Et maintenant, c'est chez Audi. Alors, je continue. Il y a encore deux exemples. Lactalis. Vous avez entendu parler de Lactalis, hein ? 200 bébés nourrissons affectés par un lait contaminé à la salmonelle. Et une entreprise qui est contrainte de fermer son usine pendant 6 mois. Elle vient de réouvrir, hein, l'usine Lactalis de Craon. On vient d'avoir d'ailleurs le spectacle navrant d'un PDG d'entreprise qui est devant une commission de l'Assemblée nationale, tout en ayant tout fait pour que cette commission soit supprimée. Et chez Lactalis, ben, on a dans cette usine-là un silo contaminé à la salmonelle, parce qu'il y a eu des incidents de salmonelle en 2005. Et que, donc, 2005-2018, hein, je vous laisse faire la différence, la salmonelle n'était pas éradiquée, et donc elle a ressurgi à l'occasion. La direction de l'entreprise dit de travaux qui ont été effectués sur les silos, et la salmonelle, c'est un virus qui peut être réactivé. Mais quand on écoute des salariés qui ont travaillé chez Lactalis, et malgré tout, ça filtre, voilà, on a la chose suivante, je vous le donne. Un salarié qui a travaillé pendant des mois comme intérimaire chez Lactalis. On est nombreux dans le service à n'être absolument pas surpris de ce qui se passe aujourd'hui. Quand vous voyez des tamis au sol, quand vous voyez des brosses qui finissent au sol et qui côtoient toutes les poussières d'une semaine de production et dont on se sert... J'essaie d'être le plus précis. D'être, on se sert pour nettoyer l'intérieur des tuyaux. Effectivement, il ne faut pas être surpris qu'on puisse contaminer un circuit de poudre. Les consignes de nettoyage dans l'établissement sont sommaires et on ne peut pas les respecter parce que ce n'est pas possible de les respecter. Même s'il y a une progression, dit-il, vous voyez comment il est raisonnable, elle reste loin d'être ce qu'il faudrait pour la norme. On a donc arrêté la tour numéro 1 chez Lactalis. Alors, il faut bien qu'on s'entende, et c'est ça qui m'intéresse le plus. Je ne suis pas convaincu que ce salarié qui parle là ait raison. Je n'ai pas besoin de cette hypothèse-là. Ce qui est important, c'est que ce salarié qui a ce point de vue-là, il puisse le confronter avec une hiérarchie dans des institutions où on instruit le dossier. C'est pour ça que la question... Et ça, on est vraiment sur des questions qui relient, vous voyez bien, performance, santé au travail et santé publique. Le problème qui est posé, ce n'est pas simplement un problème de santé au travail maintenant. C'est que la santé au travail est maintenant connectée de l'intérieur aux questions de santé publique. Je vais prendre encore un exemple, puis je vais m'arrêter parce que franchement, je pourrais y passer l'après-midi. Tellement ils sont nombreux et je vous invite à suivre ces dossiers si vous vous intéressez à la santé au travail, parce que là, vous êtes du côté du travail bien fait, ravalé. Que les salariés gardent sur l'estomac, vous voyez bien ce salarié. Et c'est lui qui les a manipulés, ces brosses, dans des conditions de normes, dont il savait pertinemment qu'il courait un risque sur le lait, et le lait est pour les bébés. Hein, c'est même pas des, moteurs, là. Alors, notez ce point, j'aimerais bien qu'on en discute, pour moi il est très important. Je ne suis pas en train de dire simplement que les salariés ont raison lorsqu'ils parlent de leur travail. Parce que je sais très bien, par expérience, que lorsque vous confrontez dans un collectif de salariés, ces salariés à la question simple, c'est quoi faire du bon boulot, ils ne sont pas d'accord entre eux. Ça, c'est extrêmement important, c'est même ça qui me réjouit le plus. Parce que c'est une occasion de dialogue à l'intérieur des collectifs. Je dirais même que c'est sur la capacité de s'opposer sur la qualité du travail qu'on fait entre collègues qu'on juge la qualité d'un collectif. Alors, je sais bien que, bien souvent, dans nos métiers, on pense que le collectif, c'est un collectif qui a un point de vue, qui doit être confronté à une hiérarchie qui en a un autre, et on fait comme si le point de vue des salariés était constitué sur ces affaires-là. Eh bien non, dans notre métier, on sait très bien que le point de vue sur la qualité du travail doit être construit. Parce que c'est compliqué, les critères de qualité du travail. Que d'une certaine manière, c'est compliqué de faire toujours les choses bien. C'est compliqué définitivement, je pense que ça va durer. Faire toujours les choses bien, c'est compliqué. Parce que parfois, la situation contraint à choisir un critère contre l'autre. Et pas toujours d'ailleurs la rapidité ou la rentabilité contre la santé. Bien sûr que non, pas toujours, mais parfois oui. Parfois même pour la performance, il y a des conflits de critères entre les salariés. Donc c'est important de ne pas avoir une idée trop simple de la santé, simplement indexée sur le point de vue déjà construit des salariés. La santé, c'est la possibilité de changer le point de vue. C'est ce qu'on appelle le développement. Je ne développe pas ce point-là, mais on pourra en discuter si vous voulez. Bon. Donc, troisième exemple. Celui-là, il est aussi, évidemment, vous allez le voir, inquiétant. Je ne cherche pas à inquiéter à tout prix, mais je cherche à ce qu'on mesure bien que quand on parle de santé au travail, on parle aussi de ça. L'EPR de Flamanville. Alors l'EPR de Flamanville, là, on est au cœur des problèmes de performance et de santé publique et de santé de travail. C'est compliqué d'avoir des informations sur l'EPR de Flamanville. Mais maintenant, on a une chance, c'est qu'il y a une agence indépendante de sûreté nucléaire. Ça n'a pas toujours été le cas. Et qui travaille bien. Qui se sent responsable, sans doute, de choses dont vous voyez bien qu'elles sont très importantes sur la question du nucléaire et de l'EPR. Qui est le réacteur de nouvelle génération. Alors là, pareil, si on est un peu précis, 7 ans de retard. 7 ans de retard. Le budget est passé de 3 milliards prévus à 10 milliards d'euros pour le moment. La dérive financière et de conception sur les cuves du réacteur central de l'EPR de Flamanville, cette dérive de conception, je vais être prudent, mais elle paraît sans fin. Elle paraît sans fin. Donc la dernière expertise de l'Agence de sûreté nucléaire, bon, je vous la donne, 150 soudures du circuit secondaire principal sont à refaire après des anomalies en chaîne constatées sur la composition de l'acier du couvercle et du fond de la cuve, déjà il y a 4 ans. Et c'est déjà pas mal. Mais l'ASN va plus loin. Ça m'intéresse beaucoup, puisque, au fond, là, ils vont plus loin et ils disent que l'inspection, c'est écrit, vous pouvez aller sur le site de l'ASN, c'est sur Internet, c'est facile à trouver, vous trouverez les informations que je vous donne. C'est public. C'est ça qui est bien, d'ailleurs. Ça montre que on est encore un pays dans lequel ces questions-là sont discutables. Même si elles ne sont pas discutées. Hein. En tout cas, pas où nous où faudrait. L'inspection a mis en évidence que l'organisation et les conditions de travail lors des contrôles de fin de fabrication ont globalement nuit à la qualité des contrôles et sont responsables de cette dégradation dès l'organisation et des conditions de travail à la fois EDF et Framatome. Évidemment, derrière, il y a la sous-traitance. D'énormes problèmes de sous-traitance, d'énormes problèmes en chaîne de sous-traitance, et au fond, au bout d'un moment, n'ont pas la mauvaise intention de ces grandes entreprises. Framatome, c'est un géant du nucléaire, quoi. C'est un fleuron. Pas la compétence, l'expertise des ingénieurs qui sont à l'intérieur de ces organisations qui fait problème. C'est qu'à un moment donné, la chaîne se perd. La possibilité d'agir sur les sous-traitants est absolument impossible, surtout que vous avez des sous-traitants de sous-traitants. Et donc, vous avez une organisation du travail qui est un gâchis de performance, qui est un gâchis de santé au travail et qui est un risque majeur pour la santé publique. Donc, le lien, vous voyez, le lien entre ces exemples-là, puis je vais en prendre un que j'aime bien particulièrement et qui me permet de descendre au ras des pâquerettes, le lien entre les données statistiques que fournit la DARES et ces données grand public que j'évoque ici est patent. Patent. Comment voulez-vous, quand vous êtes sur ces réacteurs, et même quand vous appartenez à Framatome et que vous avez des responsabilités, même d'encadrement, dans l'organisation du travail de ces entreprises-là, comment voulez-vous rentrer tranquille le soir chez vous ? Alors, bien sûr, il peut y avoir en plus des chefs qui se comportent mal, qui vous font des réflexions désagréables, voire qui vous subordonnent, puisqu'on est dans un contrat de subordination, dirait le juriste. Bien sûr, il peut y avoir, on pourrait dire, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais au fond du dossier, il y a ça. Et il n'y a pas la difficulté, parce qu'évidemment, moi, j'admets absolument tranquillement, parce qu'autrement, ce n'est pas sérieux, que quand on fabrique et qu'on conçoit un réacteur comme l'EPR, on rencontre des difficultés. Ça ne me choque absolument pas. C'est absolument normal, tellement c'est difficile. Mais ce qui est grave, c'est le déni. C'est l'impossibilité d'instituer, j'insiste beaucoup là-dessus, d'instituer la controverse nécessaire, quand c'est nécessaire, sur le dossier mal instruit de la qualité du travail. Donc on n'a pas des organisations dotées des institutions qui permettent d'instruire ces dossiers. Je dis bien d'instruire les dossiers, pas de se plaindre, d'instruire les dossiers. Ce qui demanderait aux salariés de se porter à un niveau d'expertise encore plus grand que le leur, bien sûr, parce que si vous instituez la controverse sur le travail bien fait, sur la qualité du travail, et c'est nous ce que nous faisons dans les organisations, vous faites le constat très rapidement que lorsque les salariés font une critique sur la qualité du travail, ils rencontrent en face d'eux des hiérarchies qui sont capables d'objecter. Et il y a même des débats absolument passionnés sur ce que c'est que la surqualité. Moi, j'admets très bien qu'une direction dise, par exemple, enfin, j'admets, oui, tranquillement, qu'une direction dise à des salariés, maintenant, là, compte tenu des contraintes dans lesquelles nous sommes, là, ce qu'on faisait, c'était la surqualité. Donc, il faut faire autrement. Ça se défend comme point de vue. C'est un certain point de vue sur la qualité du travail, parce qu'après tout, la survie d'une entreprise, sa rentabilité, sa productivité, enfin, bon, on pourra discuter de ça. Après tout, c'est un point de vue sur la qualité du travail qui a sa légitimité. Et par contre, si ce point de vue-là est organisé sur le déni de l'autre point de vue ou des autres points de vue, sur d'autres critères de qualité, autrement dit, si vous n'avez pas un droit de cité, pour qu'un libre examen soit organisé, mais pas toléré, pour qu'un libre examen soit organisé de façon sérieuse et instruite sur ces questions-là, alors vous avez un risque majeur, santé, travail, santé publique et performance. Voilà. Conclusion, si vous voulez, cette première partie. Après, je prends un petit exemple et on pourra discuter. Un exemple au ras des pâquerettes. Je les adore, je vous fais cette confidence. Là, je vais essayer de synthétiser la chose en mettant un peu comme ça une pierre dans le jardin du juriste. Je pense que c'est l'absence de droit. des salariés sur leur activité. L'absence de droit des salariés sur leur activité. Qui prive ces professionnels de manière générale. Là, je vous ai un salarié d'Actalis, du sous-traitant de Framatome à Flamanville, Volkswagen, Audi et les constructeurs automobiles français. L'absence de droit sur leur activité qui prive les professionnels d'une liberté décisive pour leur santé, pour la nôtre et pour la performance. Alors, vous voyez, on est dans une situation extrêmement intéressante, j'espère qu'on pourra échanger là-dessus, dans laquelle la liberté sur son activité, la liberté conquise sur son activité, non pas d'avoir le monopole de la définition de son activité. Je pense que c'est pas sérieux de dire les choses. Ce serait pas sérieux de dire les choses comme ça que, par exemple, mais parfois on l'entend et je suis vraiment pas d'accord avec ça. L'idée que seuls les salariés sont capables de dire ce que c'est que le travail bien fait. Non. Mais dire que les salariés ne sont jamais capables et ne doivent pas pouvoir décider de quoi que ce soit en matière de travail bien fait, non plus. Autrement dit, ce qui est en cause, à mon avis, c'est le monopole de l'employeur à décider seul du contenu de l'activité professionnelle. Ça, c'est un privilège hors de saison. Pas parce que il faut être opposé par principe au privilège, encore qu'on a le droit de l'être, hein, mais vous voyez bien, pour des raisons d'efficacité économique, de santé et de sécurité, à la fois des installations, sur les produits, et ainsi de suite. J'ai pas pris d'exemple dans l'alimentaire. Hein. Vous les prendrez tout seul, puisque maintenant, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on a dans nos assiettes ? Qu'est-ce qu'on prend comme médicament, et ainsi de suite. Derrière, il y a un problème de choix stratégique qui fait du travail, non pas simplement un problème, mais la solution. Et évidemment, les psychologues du travail, les ergonomes, les analystes du travail ont pris l'habitude de dire qu'il y a un problème de travail. C'est juste. Hein. Moi, je pense qu'au plus on va, au plus on est devant une situation dans laquelle le travail, c'est une solution pour la santé publique. Alors, soit c'est celle-là de stratégie, c'est-à-dire la possibilité pour des professionnels d'avoir la liberté de librement examiner, pas seuls, mais en confrontation avec leurs employeurs et leur hiérarchie, et entre eux, ce qui pose le problème du collectif. La liberté de délibérer et d'instruire le point de vue sur la qualité du travail, soit ils ont des droits nouveaux, une nouvelle génération de droits sur leur activité. Soit on va vers des difficultés majeures en matière de santé publique. Et vous voyez que ça va bien au-delà du stress. Bon, je ne veux pas faire la parenthèse sur le stress. Alors, maintenant, je prends mon petit exemple que j'utilise souvent. Et j'utilise tellement souvent que maintenant, j'en suis à dire, si vous m'avez déjà entendu l'utiliser et que ça vous fatigue, ce qui serait votre droit, vous avez le droit de m'en proposer un meilleur. Du coup, on pourrait discuter sur les critères de qualité d'un exemple pour faire des conférences. Et moi, j'ai pas trouvé mieux. Mais je suis preneur. Hein. Je cherche, d'ailleurs. Bon, j'ai des exemples cliniques, mais je trouve que celui-là, voilà, il me permet d'être vraiment au ras des pâquerettes et de retrouver dans une situation de travail, cette fois pas au niveau méta que j'ai choisi jusqu'à maintenant, hein, dans une situation de travail concrète. Du genre de celle que vous connaissez peut-être pour vous-même. Voilà. En tout cas, que moi, j'ai fréquenté pour moi-même dans la situation de travail qui est la mienne. Ça m'est arrivé, ce genre de choses. Donc, cet exemple, je l'emprunte à Fabienne Annick. Elle a écrit un livre sur la Poste que je vous conseille. Hein. Voilà. Je m'en suis servi de cet exemple-là, mais je vais faire un commentaire précis aujourd'hui, comme ça lance la discussion. Donc, on est dans une formation. Si vous voulez vous retrouver ça, vous allez dans, j'ai la page que j'ai sous les yeux, vous allez dans le travail à cœur, page 202, et vous allez retrouver ça, parce que j'ai déjà ruminé cette affaire. Mais là, je continue. Donc on est dans une formation, il y a des guichetières qui sont réunies, et on veut leur apprendre à travailler correctement. Ce qui est légitime, hein. Vous voyez, il n'y a aucune ironie mordante dans ce que je dis. C'est normal qu'une direction puisse considérer qu'à un moment donné, il y a vraiment un saut de compétences à faire. Donc là, on est dans l'idée discutable mais intéressante qu'au fond, pour que la qualité s'améliore, il faut améliorer la procédure. Ce qui n'est pas idiot non plus, hein, mais qui est un certain point de vue sur le travail. Et donc, on fabrique du script. Et donc, on forme les gens au script, au guichet. On va leur apprendre à parler. Bon, vous allez voir de quoi. Enfin, c'est là où c'est compliqué. En tout cas, à vendre, voilà, ça c'est sûr, à vendre des produits prépostés. Puisqu'à la poste, maintenant, c'est aussi de ça qu'il s'agit. Pas simplement de rendre service, mais de vendre. Pourquoi ? Parce que vous êtes, vous et moi, nous sommes d'ailleurs des usagers, mais nous sommes aussi des clients. Et ça, c'est compliqué, hein. Vous voyez, le conflit de critères, là, il est dans l'objet de l'activité. En l'occurrence, dans le sujet qui est au guichet de l'autre côté. D'ailleurs, c'est un exemple que j'aime bien, parce que finalement, tout le monde l'a vécu comme sujet de la situation, et donc tout le monde peut réfléchir sur lui-même comme objet du travail de la guichetière. Ou du guichetier. Là, ce sont des guichetières, c'est pourquoi j'en parle au féminin. Donc voilà, l'idée, c'est qu'on les rassemble pour qu'elles se forment au script. Et voilà, et Fabienne Annick a eu la chance, c'est un document, à mon avis, inestimable, de pouvoir enregistrer et donc décrypter et nous livrer ce texte dont je considère qu'il est une sorte de goutte d'eau qui a la structure de l'océan sur lesquels on est en train de discuter. Enfin, sur lesquels, pour le moment, je suis en train de parler. Discuter, c'est après. Alors, imaginez la situation. Il y a une dizaine de guichetières. Elles sont dans une salle de formation. C'est un peu petit. Il y en a qui sont dans les coins. C'est pas toujours facile, le travail des formateurs. Hein, voilà. Mais enfin, elles sont déjà contentes parce qu'au moins, elles ne sont pas au guichet. Ça repose. La formation, vous voyez, parfois, le critère de qualité d'une formation, c'est déjà que ça repose parce qu'on n'est pas au boulot. Pas négligeable. Enfin, ça repose normalement, mais dans cette situation-là, vous allez voir, ça repose guère. Hein. Alors, donc ça commence, et les prénoms ont été changés, et Sandra est à la manœuvre, et on lui demande de vendre un produit préposté. En l'occurrence, c'est le colis jaune, avec ses différentes dimensions qui sont derrière quand vous allez au bureau. Enfin, pas dans tous les bureaux. Enfin, dans celui-là, oui. Et donc, Sandra est à la manœuvre, elle essaie de vendre son colis. Et là, donc en face de... J'en ai discuté avec Fabienne Annick de cet exemple. Donc, finalement, par discours rapporté, je le connais pas mal. Ils sont deux. Il y a un formateur professionnel de la Poste et puis il y a un animateur des ventes. L'animateur des ventes, c'est celui qui est chargé du commercial sur un département. Et donc, Sandra est à la manœuvre... Et hop, elle est coupée par l'animateur qui lui dit « Ne dites pas si j'étais vous. » Ou encore « À votre place. » Ou même « Ne dites pas « Je vous comprends parce que moi, vous n'êtes pas eux. » Sandra. Mais les clients aiment bien qu'on ait une relation de confiance avec eux. « Je suis d'accord. Vous devez le faire. » dit cette fois le formateur. Mais établir une relation de confiance n'implique pas que vous deviez vous mettre à leur place. Vous êtes la Poste. Là, on est dans le script. Hein. Voilà. Donc, le script, c'est la Poste. Hein. Vous êtes la Poste. Alors, dites plutôt, là, c'est le script. Dites plutôt, la Poste vous propose ou la Poste s'engage. Vous devez rechercher ce que la Poste peut proposer de mieux. Et là, vous avez affaire à un groupe de femmes... qui se connaissent pas toutes, mais certaines se connaissent. Voilà. Mais dans le coin, là, ça maintenant je le sais grâce à Fabienne Annick, un peu dans le coin, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'était pas directement dans le champ du formateur et des animateurs, quelqu'une plutôt. Donc, la Poste s'engage, vous devez rechercher ce que la Poste peut proposer de mieux, et donc dans le coin. De mieux pour eux ou de mieux pour la Poste ? Question. Intervient Corinne, non sans ironie. Le formateur, c'est pareil. La Poste propose ce qu'il y a de mieux pour son client. Là, vous avez Fabienne Annick a noté gloussement, Ça commence à rire un peu. Votre travail, reprend l'animateur, c'est de satisfaire le client, c'est-à-dire répondre à ses demandes et identifier ses besoins latents. Là, vous imaginez, le psychologue dresse l'oreille parce que c'est pas facile d'attraper les besoins latents des gens, hein, quand on est psychologue. Mais là, on va avoir accès à ses besoins latents. Par exemple, si un client se présente avec un paquet, et qu'il a lui-même confectionné, indiquez-lui que la Poste lui propose une gamme de prêts à expédier qui lui garantit un acheminement en toute sécurité. Sandra, moi, quand je suis cliente quelque part, j'ai confiance en quelqu'un quand je sais que ce qu'il me propose, c'est ce qu'il aurait choisi pour lui-même. Et au guichet, quand je vois que des clients arrivent avec un paquet bien fait, notez la chose, je vais y revenir. Quand je vois que des clients arrivent avec un paquet bien fait, bien fermé, je ne vois pas pourquoi, en toute confiance, j'irai lui dire de défaire son paquet et de payer 3 fois le prix de son acheminement pour acheter un colis poste. Le formateur. Eh bien, c'est une erreur. C'est une erreur. Pour avoir confiance, le client a besoin d'avoir en face de lui un vrai professionnel. Ça aussi, notez-le, parce que je vais y revenir. Et là, on a une deuxième chance, si je peux dire. On va avoir la définition de ce que c'est que le vrai professionnel. Donc, vous voyez bien que, personnellement, je fais l'objet même du conflit de critères. Mais là, en face de lui, un vrai professionnel. Et le vrai professionnel, c'est un guichetier qui connaît ses produits. Voilà un critère de qualité du travail. C'est un guichetier qui connaît ses produits. Voilà. Le client ne vient pas voir Madame Michu, qui, à sa place, ferait comme ci ou comme ça, mais Sandra ou Corinne ou Jackie, qui sont des guichetiers professionnels. C'est intéressant parce qu'il n'y a que des femmes dans le verbatim, sont des guichetiers professionnels. Vous ne devez pas vous mettre à leur place. Un point, c'est tout. Sandra, ça, c'est sûr que si on se mettait à leur place, on ne vendrait pas beaucoup. Le formateur, justement, vous ne vendez pas beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Voilà. Alors ça, vous avez ri. Je dois dire que c'était un peu mon objectif. Hein. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est exactement ce qui s'est passé dans la formation. C'est-à-dire que les guichetières, là, il y a un rire des guichetières. Et j'ai discuté de ça avec Fabien Anix sur le rire. Je lui dis, mais il est comment ce rire ? Et là, on commence à faire de la clinique, parce que ce rire, il est à double fond. Il est double. C'est le rire de la raillerie des professionnels de premier niveau qui se disent qu'il faut être vraiment bien loin des guichetiers pour raisonner, des guichets pour raisonner comme ça. Pas des guichetiers, hein, des guichets pour raisonner comme ça. Parce que la vraie vie, ça ne marche pas comme ça. Hein. Donc, vous savez bien, ces professionnels qui s'enferment d'ailleurs parfois dans un rire de dérision à l'égard du travail dégradé. Du travail ni fait ni à faire. Au bout d'un moment, c'est la dérision qui l'emporte. Donc ça, c'est le rire de raillerie, un peu de dérision, mais il y a en même temps un rire jaune. Et celui-là, c'est le rire de la psychopathologie du travail, le rire jaune. Parce que c'est le rire du ressentiment, des choses qu'on conserve sur l'estomac. Le rire jaune, c'est... il va falloir revenir au guichet, et quand on va être évalué, sur... ce critère de qualité du travail, c'est-à-dire le vrai professionnel, c'est celui qui connaît ses produits. Or, j'aurais pratiquement fini, quand on est dans un bureau de poste, et nous on a vraiment travaillé sur les bureaux de poste, on peut attester que ce critère de qualité du travail, c'est-à-dire bien connaître ses produits, est évidemment très important. Et que là, on ne peut pas se permettre d'écarter le critère de qualité du travail mis en avant par la direction. Est-ce que ce n'est pas sérieux ? Un guichetier qui ne connaît pas bien ses produits, il ne peut pas faire le travail correctement. Donc, le critère de direction n'est pas éliminable. Mais là où c'est passionnant de faire de la clinique du travail, ou même de la clinique de l'activité, si vous me permettez, c'est quoi la connaissance des produits ? Et là, je rebondis sur ce sur quoi je m'étais arrêté au passage. Quand je vois que quelqu'un arrive avec un paquet bien fait, je ne vais pas lui faire défaire, dit la guichetière. Alors, c'est quoi un paquet bien fait ? Vous voyez, moi, je m'intéresse à ça. C'est quoi un paquet bien fait à la Poste ? Et quand on travaille sur ces problèmes-là, on tombe sur des conflits de critères magnifiques qui signalent quoi ? Qui signalent l'expertise professionnelle. Parenthèse, moi, j'ai une définition très robuste, si je peux dire, très grossière, finalement, de ce que c'est qu'un expert. Un expert, c'est celui ou celle, hein, bien sûr, qui est capable de dire « ça dépend ». Pas parce qu'il comprend rien ou parce qu'il est incompétent, mais parce qu'il a fait le tour de la question. Et donc, ça dépend de la situation. Eh bien, quand vous regardez un paquet bien fait à la poste, ça dépend de la situation. Vous pouvez avoir une guichetière qui va voir quelqu'un arriver avec la fameuse boîte de chaussures, avec le scotch marron ou gris, hein, ou blanc, comme vous voulez. Et qui va dire, ça, madame ou monsieur, ce paquet-là, vous allez me le défaire. Parce que tel qu'il est, ça ne va pas. Ça ne fait pas. Et donc, je vais vous donner un paquet de la poste. Voilà. Donc, autrement dit, là, le critère de direction qui consiste à vendre le paquet est juste. Mais vous avez d'autres situations. Vous avez une situation dans laquelle, par exemple, la guichetière va faire le lien entre la manière dont le paquet est emballé et le poids de ce qui est à l'intérieur du paquet. Ça, c'est un critère. Et vous en avez un autre. Enfin, il y en a sûrement beaucoup que je ne connais même pas. Mais il y en a au moins un autre. C'est la distance sur laquelle voyage le paquet. Et il y en a au moins un autre qui, lui, engage tout ce qu'on peut appeler la qualité du service. C'est, je connais cette personne qui vient toutes les fins de mois envoyer le même paquet à ses petits-enfants qui sont de l'autre côté de la France. Et depuis qu'on fait ça, moi ou mes collègues, on l'a bien repéré, celle-là, et on n'a jamais eu de pépins. Donc on ne change pas une équipe qui gagne. Et donc ce paquet, il part comme ça. Et ça, c'est quoi? Ça veut dire que faire un travail de qualité, ce n'est pas simplement connaître le produit. C'est connaître son public, comme on dit souvent au guichet. Connaître son public. Donc la relation de service, c'est absolument pas réductible au produit à vendre. Qui ne veut pas dire que le produit à vendre ne fait pas partie des critères de qualité du travail. Oui, mais où ça se délibère, ça? Où ça s'institue? Où ça s'arbitre? Pour des arbitrages réversibles, bien sûr. Parce qu'il n'y a pas d'arbitrage robuste qui ne soit pas réversible. C'est-à-dire qu'on peut se tromper, on peut pratiquer par essai et erreur, voilà, et cumuler de l'expérience. C'est même ça qui fait la santé, la sienne, celle du public, et qui fait la performance. Parce que dans la relation de service, la performance, c'est que la personne apprenne. Parce que les guichetiers, ils apprennent aux gens à faire des paquets. Donc il y a de la performance absolument codifiable. Hein. On peut avoir des indicateurs de performance là-dessus, mais vous voyez bien que c'est absolument discutable. Bon, alors je termine. Franchement, je suis au bout. Après, vous avez deux... Bon, je ne vous parle pas du vrai professionnel, parce que le vrai professionnel, c'est l'expert, celui qui est capable de faire le tour de la question. Ah. Et qui est capable de trouver l'angle mort, quoi. Le sien, celui du dirigeant, et qui est capable d'entendre l'objection du dirigeant. Ça aussi, hein, c'est un vrai travail d'apprentissage. Ma conclusion, c'est donc c'est la suivante, quoi. C'est, vous pouvez avoir deux lectures de ce texte-là. La première lecture, qui est dominante dans le champ des sciences du travail, dans les sciences humaines du travail, qui consiste à dire, cet exemple est dramatique, c'est pas loin de l'interprétation de Fabienne Annick. Je dis pas que c'est une interprétation sociologique, parce que beaucoup de sociologues, enfin en tout cas certains, raisonnent pas complètement comme ça. Mais là, l'idée, cette situation est dramatique, pourquoi? Pourquoi il y a une atteinte à la santé, là? Ben parce que la Poste est devenue une entreprise marchande. C'est une entreprise marchande qui, au fond, est en train de casser le métier. Et le contrat symbolique sur lequel les guichetiers se sont engagés lorsqu'ils sont venus travailler à la Poste, qui est un contrat de service public et non pas une entreprise commerciale. Donc, vous voyez la causalité, attaque du métier, psychopathologie du travail. Alors, je voudrais terminer en compliquant un peu cette interprétation. Parce que si vous vous placez du point de vue de l'action, ce qui est mon cas, si vous faites cette hypothèse, tant que la Poste sera une entreprise marchande, alors le métier sera en danger, alors il y aura de la psychopathologie du travail, vous pouvez arrêter d'être psychologue du travail. Il vous suffit d'être militant. et de dire tant que la Poste sera une entreprise commerciale, voilà. Ça, c'est la première grande hypothèse. On n'est pas obligé de voter entre les deux. Et franchement, quand je vous dis cette hypothèse-là, ça m'est arrivé de la faire aussi, d'accord, pour qu'on soit tous à l'aise. Je vois bien l'analyse, là, en termes de rapport social, de transformation des entreprises de services en entreprises commerciales. Bon, comme je ne suis pas un naïf social, j'arrive à me hisser jusqu'à cette hypothèse. Mais il faut en faire une autre pour l'action, qui, à mon avis, est extrêmement importante pour l'action. Hein, c'est que ce qui est difficile, là, c'est que pour ces guichetières, et c'est important d'être près de ce qui est difficile pour les guichetières, si on veut agir. Ce qui est difficile, c'est pas qu'elles travaillent dans une entreprise commerciale. Bien sûr que oui, au plan méta, bien sûr. Enfin, en tout cas, qu'il y ait un conflit de critères non pensé entre usagers et clients. Que ce conflit de critères soit évacué, soit dénié. Ça, c'est important. Mais ce qui est important, c'est qu'au fond, quand elles sont dans cette situation-là, vous voyez, ces 15 guichetières, ces deux formateurs, cette situation de travail concrète, qu'est-ce qui est important ? Ce n'est pas que la Poste soit en train de devenir une entreprise commerciale, même si en arrière-fond, ça l'est, bien sûr. C'est qu'au fond, ce qui est discutable ne puisse pas être discuté. Le vrai professionnel, c'est ça. Il n'y a rien à discuter. Et vous êtes là pour comprendre une fois pour toutes qu'il n'y a rien à discuter et que le vrai professionnel, c'est ça. Autrement dit, ce qui est dramatique dans cette affaire-là, c'est le dialogue empêché. C'est le dialogue, pas seulement empêché, le dialogue combattu. L'impossibilité de mettre sur la table le conflit de critères. Parce que le conflit de critères, comment vous dire, c'est une chance et ça va durer. Je pense que c'est pour les siècles des siècles. Le conflit de critères sur la qualité du travail, c'est pour les siècles des siècles. Il n'y a pas de possibilité dans le travail humain de ne pas rencontrer le conflit de critères. Vous-même, dans votre activité, moi, Loïc, on passe notre temps dans des conflits de critères. Et on passe notre temps à fabriquer de l'intelligence individuelle et collective pour faire du conflit de critères une occasion d'ingéniosité. C'est comme ça qu'on devient intelligent. C'est grâce au conflit de critères. Parce qu'on l'institue dans son dialogue intérieur. Et parce que le conflit de critères, il est dans le monde, avant d'être dans la tête des gens. Donc le conflit de critères est dans le monde. Le drame, c'est quand le conflit de critères qui est dans le monde ne peut pas être institué autrement que dans le dialogue intérieur de chacun, c'est-à-dire la rumination. J'ai encore fait n'importe quoi. Si mes enfants me voyaient faire ça, là, on a un conflit de critères qui empoisonne l'existence, ou qui, comme le dit le joli vocabulaire populaire, qui empoisonne la vie. Mais le conflit de critères en lui-même, il ne faut pas chercher à l'éliminer. La seule solution, c'est de l'instituer. Parce que c'est ça qui fabrique de la santé au travail et public et qui fabrique de la performance. Et évidemment, vous avez bien vu que je prends performance là en un sens tout à fait particulier. Je considère que quand Volkswagen fait ce qui a été fait, elle organise, cette entreprise, un gâchis de performance. Elle gaspille. Elle considère que à l'EPR de Flamanville, on gaspille l'argent public. C'est pas performant. C'est même pas bien du tout. Je considère que chez Lactalis, on a gaspillé la performance, on a gaspillé l'intelligence des gens aussi, mais on a aussi gaspillé la santé de ses nourrissons. Donc, la santé au travail, ça consiste à lutter contre le gaspillage de la performance. Non pas en se couchant devant les critères dominants de performance, mais en se constituant littéralement comme des sujets de la performance, des sujets qui veulent tout simplement discuter de la performance pour gaspiller moins, c'est-à-dire pour pouvoir se reconnaître dans ce qu'on fait. Merci à vous.
Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir.